Radio Kapi.
Il est midi pile à Kinshasa, 13h à Kalemi, dans le Tanganyika. Bienvenue à l'écoute de ce journal, dont voici les titres. Nord Kivu, des accrochages ont encore opposé ce lundi matin les rebelles du M23 à des groupes armés locaux dans le groupement de Tongo, en territoire de Rutshuru. Les sources parlent d'une entrée sans combat des combattants locaux ce même lundi dans les centres de Kichanga et de Burungu, en territoire de Masisi. C'est une situation qui inquiète la population de l'îlot de Bilila, entouré par le lac Tanganyika dans les territoires Akalemi, dans la province de Tanganyika. En l'espace de 7 mois, des crocodiles ont tué 6 personnes et blessé grièvement 2 autres. Le responsable de la conservation de la nature pense qu'il est urgent de refouler ces animaux. L'invité de ce journal est le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, vient de participer à Kyoto, au Japon, à la table ronde des ministres de son secteur, et à Vienne, en Autriche, à l'Assemblée générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mesdames, Messieurs, bonjour, Nord Kivu. Pour commencer ce journal, des accrochages ont encore opposé tôt ce lundi les rebelles du M23 à des groupes armés locaux dans le groupement de Tongo. C'est dans la chefferie de Buito, en territoire de Rutshuru. Des sources locales parlent des détonations d'armes lourdes et légères qui ont été entendues dans la zone. Les mêmes sources parlent d'une entrée sans combat des combattants locaux ce même lundi dans les centres de Kichanga et de Burungu, en territoire de Masisi. Des détails avec Bernard Denyangi.
C'est entre 5h et 7h locales que des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues, notamment dans les villages Kanaba, Kisangani, dans le groupement de Tongo, ainsi que dans les environs de Bouiza, groupement de Bichoucha. La population de Tongo Centre a dû s'exiler autour de la base de l'EACRF. Selon des sources civiles, ceci intervient quelques heures après des embuscades étendues par des groupes armés contre un convoi des rebelles du 1-23 entre Tongo et Kalengera. Conséquence, les rebelles auraient dégarni Kichanga et Burungu pour renforcer l'axe Tongo en territoire de Rutshuru. Profitant de ce vide, les combattants de groupes armés locaux, qui jusqu'hier dimanche réoccupaient certains villages autour de ces agglomérations, ont fait leur entrée sans combat ce lundi matin dans les centres de Kichanga et de Burungu, disent ces sources. Quelques tirs de sommation ont toutefois été entendus dans ces zones. Un homme a été tué lors des combats d'hier sur l'axe Kinyando-Ninkwenda, au nord-est de Kiwanja sur l'axe Nyamilima. Deux autres personnes, une femme enceinte et un homme, ont été blessées à Kichanga hier par balles et par éclats d'obus. Elles sont suivies dans une structure locale. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Et toujours au nord Kivu, l'auditeur militaire des garnisons de Beni vient d'ordonner la fermeture du cachot du groupe mobile d'intervention GEMI de la police déployée à Beni. Dans sa décision prise vendredi dernier, le colonel Luamba Songe parle d'une mesure prise à la suite de plusieurs abus d'étroit fondamentaux constatés dans ce cachot. Ce sont notamment des arrestations non justifiées et le dépassement du délai légal de garde à vue. La société civile de Beni se félicite de cette décision, mais demande des enquêtes pour l'interpellation des officiers de police judiciaire auteurs de ces pratiques. Son président, Pépin Kavota, l'a dit au micro de Martial Papi Mukeba.
Nous la saluons cette décision, mais nous sommes en train de bien vouloir ici dire que il ne faut pas que l'auditeur s'arrête jusqu'à ce niveau. Il doit aussi aller dans les sens de faire des enquêtes à vue, n'est-ce pas, de mettre la main sur tout OPJ qui a baigné dans les arrestations arbitraires et dans les détentions illégales, qui, n'est-ce pas, violerait non seulement la Constitution, mais aussi d'autres textes nationaux et internationaux. C'est autant que nous sommes en train d'appeler tous les magistrats debout à Ville de Beni de faire de même, d'aller de visiter non seulement les cachots à Ville de Beni, mais dans les territoires, mais aussi la prison. Parce que lorsque nous sommes en train de sillonner dans les territoires, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'arrestations arbitraires et beaucoup de détentions illégales.
La situation de déplacés de Kwamout vivant dans la ville de Kikwit en province du Kwilu est de plus en plus préoccupante. Les rapports du service urbain des affaires sociales indiquent que 30 décès ont été enregistrés parmi eux à la suite des conditions de vie précaires. Plusieurs mois se sont écoulés depuis leur arrivée, mais ils n'ont bénéficié d'aucune assistance. Les familles d'accueil qui avaient accepté de loger ces personnes vulnérables se disent dépassées par la charge. Du coup, Certaines de ces familles d'accueil ont renvoyé ces déplacés en les remettant à la disposition du service urbain des affaires sociales de Kikwit. Selon Judith Mbila, secrétaire technique de ce service, cette situation nécessite une intervention du gouvernement et des humanitaires pour sauver la vie de ces déplacés de Kwamout. Elle a été jointe par Irène Boma.
La situation est devenue encore pire. C'est une situation très difficile. Ils vivent mal, même dans des familles d'accueil où ils sont. Les familles d'accueil viennent de déclarer. En tout cas, ça ne va pas avec eux. La condition de manger, scolarité et puis de dormir aussi. Ils sont mal à l'aise. À Kikwit, maintenant, nous avons 620 déplacés. Il y a 30 morts. Et la façon où ils dorment par les pavements. Il y a des fois par terre. Ils ne mangent pas bien. Alors, vous voyez, les pareils cas, ça provoque des maladies. Et puis, ils sont mal soignés aussi par rapport à la santé. Les familles d'accueil commencent à les chasser, c'est parce qu'ils sont impatients. Nous les avons, les affaires sociales les a données pour quelques temps pour dire que dès qu'on sera réhabilité, on peut les retirer. Alors les familles d'accueil sont impatientes, ils viennent maintenant déclarer aux affaires sociales de récupérer ces affaires. Vraiment, nous demandons au gouvernement, il faut que ces assistants existent aussi par rapport aux déplacés de Kwamout. Puisque jusque-là, nous ne voyons pas encore assistance chez eux. Ils sont toujours à des vacations. On risque même de perdre même les enfants ou l'opération qu'on va les enfants là. Nous demandons au gouvernement d'assister comme il faut.
Dans la province du Tanganyika, des crocodiles ont tué 6 personnes et blessé grièvement 2 autres en l'espace de 7 mois. Le drame se passe sur l'îlot de Bilila, qui est entouré par le lac Tanganyika dans les territoires de Kalemie, à une dizaine de kilomètres de la cité de Kabimba. Cette situation inquiète la population. Pour les responsables de la conservation de la nature, la cellule de l'environnement de Kabimba, il est urgent de refouler ces animaux. Le point avec Paulé Munanga.
Le dernier cas en date s'est produit dans la soirée de mardi passé. Des témoins rapportent qu'un homme a été happé par un crocodile. Le corps sans vie de la victime a été retrouvé le lendemain avec une jambe arrachée. Des sources renseignent que depuis mars dernier, les crocodiles ont attaqué 8 personnes sur l'îlot de Bilila. Ils en ont tué 6, dont 2 corps n'ont jamais été retrouvés. Il y a eu aussi 2 personnes grièvement blessées. Face à cette situation, la population exprime son inquiétude. Nous avons peur actuellement de nous rendre au bord de l'eau à cause des crocodiles. Que le gouvernement se penche sur cette affaire. L'État ne fait rien. Les crocodiles dérangent la population. Il y a ceux qui ont été tués par ces animaux. Mais on ne peut pas nous autoriser de les abattre. Pour les chefs de la conservation de la nature à la cellule de l'environnement de Kabimba, il est urgent de refouler les crocodiles pour permettre à la population de vivre en toute quiétude. Alexis Moussouyou annonce qu'il va faire un rapport à la hiérarchie à ce sujet. Pour sa part, l'administrateur du territoire de Kalemie appelle la population à la vigilance face aux dangers que présentent les crocodiles. Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
À Matadi, au Congo central, la route construite en 2 pneus qui mène au quartier Soyo Village vers les antennes de la Renaceltsat et d'autres médias de la ville se trouve dans un état de délabrement très avancé. Robert Makai, un des notables de ce quartier situé dans la commune de Matadi, qui l'affirme, indique que si les autorités n'interviennent pas urgemment au regard des pluies qui s'annoncent, cette route d'importance économique pour la ville de Matadi sera coupée en 2. Des détails avec Nana Plurich Mambou.
Circuler dans cette route longue de 3 km relève d'un parcours du combattant même pour les conducteurs de moto, des tricycles et des 4x4 qui l'empruntent. Car celle-ci est délabrée de bout en bout et parsemée de gros bourbiers. Et pourtant, les quartiers Soyo Village où mènent ces tronçons a une démographie en croissance exponentielle. Cet axe en état piteux est pourtant d'un intérêt économique très important, comme l'affirme Jean-Claude Makai, l'un des notables du quartier Soyo Village.
Ce village présente un intérêt socio-économique. On y trouve les antennes de la Renatelsat et celles de différentes chaînes de radio et télévision, notamment la RTNC, Radio Okapi et autres. Il y a également le petit poste frontalier de Soyo, par où entrent à chaque instant différents produits en provenance de l'Angola. Malheureusement, la route qui mène vers ce quartier est dans un état piteux.
Avec les retours de pluie, les habitants des alentours redoutent une éventuelle coupure de cet axe. D'où l'appel de Jean-Claude Makai à l'endroit des décideurs.
Avec la saison pluvieuse qui s'annonce, cette route est sous menace de coupure. La population continue à implorer les décideurs pour la réhabilitation de ces tronçons routiers.
Signalons que la chaussée à sens unique appelée communément Dépuneux, qui part du quartier Météo jusqu'à Soyo Village, a été construite en 1958 quand le Congo central était dirigé par le tout premier gouverneur Mwanda Vital. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
À Mbandaka, le nouveau procureur général près la cour d'appel de l'Équateur a attiré l'attention des acteurs politiques et de l'opinion en général sur le respect des principes des élections provinciales ainsi que les opérations et les contentieux liés à ces élections. C'était samedi dernier à Mbandaka au cours de la cérémonie officielle de son renouvellement de serment statutaire devant les autorités judiciaires et politico-administratives de la province. Le point avec Paul-Richard Malingela.
Le nouveau procureur général Jean Kabon Okamai estime que les prochaines élections sont déjà d'actualité. Et pour réussir le processus à l'Équateur, il a mis un accent particulier sur les élections provinciales et les contentieux électoraux, mais aussi sur les infractions relatives aux opérations et contentieux électoraux. Dans son allocution du jour, conformément à la coutume des prises de fonctions au parquet, il a tenu à développer ce thème en vue, a-t-il dit, d'exhorter les acteurs politiques et les électeurs dans la province au civisme électoral et à éviter toute forme de violence, lesquels conduiraient soit à l'invalidation des candidats, soit à la condamnation des auteurs. D'aucuns ont alors reconnu que cette communication du PG a constitué en amont un appui fort de la justice afin d'aboutir à des élections apaisées à l'Équateur. Cela se justifie par quelques échauffourées qui ont été signalées récemment entre camps adverses des politiciens avec leurs sympathisants. C'était dans les territoires de Bassankoussou et de Bikoro. Mais outre les échéances électorales qui pointent à l'horizon, le nouveau procureur général Kabongo devra aussi faire face surtout aux nombreux dossiers de conflits fonciers, de banditisme urbain appelé Kuluna, de vols et viols ainsi que de justice populaire. Bondaka, Porcha Maningela, Radio Okapi.
Et sachez qu'avant sa nouvelle affectation dans la province de l'Équateur, le procureur général Jean Kabongo a œuvré à l'inspection générale de la justice. Autre chose à présent, ce lundi 9 octobre, l'humanité célèbre la journée mondiale de la santé mentale. En République démocratique du Congo, le ministère de la Santé fait état de pas moins de 20 millions de personnes qui souffrent de troubles mentaux. Pourtant, au regard de la couverture sanitaire encore très faible, à peine de 5%, l'entretien de la santé mentale est fondamental pour ceux qui habitent une zone frappée par certains actes d'insécurité comme Beni, au Nord Kivu et ailleurs. Et pour éviter le stress et mener une vie plutôt normale, il est important de focaliser son attention sur les nouvelles positives, d'équilibrer son temps entre les activités professionnelles, ludiques et le sommeil apaisé. Ces recommandations sont faites par Héritier Mouindo, psychologue clinicien à la polyclinique Sainte-Croix Moulobéni. Il revient ici sur d'autres recommandations au micro de Blaise Makassi.
Comme nous sommes dans la zone à conflit, les risques sont vraiment énormes, multiples. Il y a les risques de stress permanent. On est toujours à perpétuelle peur. Et quand on a la peur, c'est déjà le psychologique qui est impliqué et qui a des retentissements sur l'organisme. C'est bien de prendre vos dispositions pendant que nous sommes dans la zone à conflit, mais ne vous laissez pas emporter par de mauvaises informations. Ayez de bonnes informations et prenez vos mesures par la raison, pas d'une manière là sentimentale. Pour être en bonne santé mentale, aux travailleurs par exemple, il faut avoir un temps bien réglementé. Ayez le temps aussi de bien entretenir vos relations, puisque quand on est en société, nous sommes des soignants les uns les autres. Ayez le temps de prendre votre congé.
Actualité internationale.
Au Cameroun, au moins une dizaine de personnes ont perdu la vie hier dimanche dans des glissements de terrain dans le quartier de Mbankolo à Yaoundé et de nombreuses autres sont portées disparues. Selon des sources sur place, un lac artificiel créé il y a des années aurait lâché sous la pression des pluies diluviennes qu'a connue la capitale politique ces derniers jours. Et puis des explosions ont illuminé les ciels nocturnes de la ville de Gaza tôt ce matin lors de la deuxième nuit des frappes aériennes israéliennes sur la bande. Des roquettes ont également été vues lancées depuis le territoire.
L'invité.
L'invité de ce journal est le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Gilbert Kabanda vient de participer à Kyoto, au Japon, à la table ronde des ministres du secteur sur les sciences et la technologie. Avant Kyoto, il revenait de Vienne, en Autriche, où il a pris part à l'Assemblée générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il s'entretient ici avec Pascal Massirika.
Gilbert Kabanda, bonjour.
Bonjour, monsieur Massirika.
Vous venez de participer à Kyoto, au Japon, à la table ronde des ministres des sciences et technologies. Quel était le menu ?
Je viens non seulement de Kyoto, mais aussi de Vienne. Avant d'aller à Kyoto, j'ai pris part à l'Assemblée générale de l'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, où tous les pays du monde sont invités. Et après l'AIEA, je suis allé à Kyoto pour assister à une rencontre internationale organisée par mon homologue japonais dans le domaine de la recherche, la technologie, l'innovation et l'invention.
Pourquoi le choix porté sur Kyoto plutôt qu'ailleurs ?
C'est le Japon qui a organisé cette rencontre internationale à Kyoto, qui est une ville culturelle japonaise.
Et les participants ont convenu de faciliter l'accès à tout le monde, à la science et à la circulation internationale des cerveaux au bénéfice de l'humanité. Comment matérialiser ce vaste chantier, avec quels moyens ?
Nous avons tenu chez nous, au mois d'août, un conclave du génie scientifique congolais. C'est le support humain de cette matérialisation. Parce que la recherche scientifique, l'innovation technologique est avant tout une affaire de chercheurs, de scientifiques. Et essentiellement du génie. Parce que ne cherche pas qui veut. La matérialisation se fera par les échanges que nous mettrons ensemble entre le Congo, le Japon et les autres pays qui ont été là. Chaque pays a son modèle. Nous avons échangé avec un bon nombre de pays dont les modèles généralement diffèrent, qui vont nous inspirer en faisant la synthèse de ces modèles-là sur le meilleur qui nous convient selon ce qui est spécifique à nous.
Au nom du gouvernement, vous avez plaidé pour que la recherche scientifique soit le fer de lance du développement d'une nation. Avez-vous les sentiments d'avoir été entendu?
J'ai constaté que tous les pays du monde, les plus grands jusqu'aux plus petits, font de la recherche scientifique le socle du développement. Pour passer d'un état à un autre, il faut chercher comment le faire. Et c'est ça la recherche scientifique. C'est une voie incontournable.
Est-ce que la table ronde de Kyoto a été sanctionnée par une déclaration contraignante qui engage tous les pays de sorte à éviter que les conclusions restent dans les tiroirs?
C'était une rencontre de scientifiques de haut niveau, mais il n'y avait pas de contraintes, il y avait plutôt échange d'expériences, de méthodes, de techniciens, de partenaires politiques.
Revenons un instant à la rencontre de Vienne en Autriche. Qu'est-ce qui en ressort ?
Congo, notre pays, est le pays subsaharien qui a été le premier à acquérir une centrale nucléaire en 1958, mise en œuvre en 1959. Nous sommes le pays qui est le plus grand producteur d'uranium de haute radioactivité. Ces deux éléments font du Congo un pays que l'AIEA ne peut pas laisser non plus dans l'oubli. Depuis 1959, aucune autorité de l'AIEA n'a visité notre pays. J'ai demandé au directeur général de l'AIEA de bien vouloir venir nous rendre visite et il a accepté d'effectuer la toute première visite de cette haute instance internationale dans le tout premier pays subsaharien à détenir une centrale nucléaire. Ça pourrait s'effectuer avant décembre. Nous sommes en train de mettre au point le programme de sa visite. Je ferai rapport à ma hiérarchie, au Premier ministre et au chef de l'État, pour que les dispositions soient prises. L'AIEA dote notre pays d'un équipement de diagnostic et de traitement radiothérapique. Et par conséquent, nous devrons, à l'occasion de cette visite-là, mettre à la disposition de l'AIEA certaines conditions qui sont exigées pour que cet équipement puisse être opérationnel, notamment un bâtiment qui va être érigé sur le campus de Kinshasa et dont nous allons lancer bientôt les premières activités de construction.
Merci, monsieur le ministre.
Je vous remercie, monsieur Massirika.
Notre invité, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda, s'entretenait avec Pascal Massirika. Fin de ce journal qui a été supervisé par Martin Seboudjangoué, coordonné par Élisée Tikota et mise en onde par Jean-Claude Nsiala. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté.